Tu y as pêché baobab acajou.
Dur de la feuille.
Baobab acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron cyprès, pin tes landes palissandres, mélèze tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit enchanteur avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 9 mars 2026. Publication d'une étude évaluant la lutte contre les espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts en France. Quel organisme a mené cette étude? Y a-t-il d'autres études sur le sujet? Quelle méthode a été utilisée afin de réunir les données et les analyser? Comment classe-t-on une espèce animale en tant qu'espèce susceptible d'occasionner des dégâts, dit ésode? Y a-t-il des ésodes qui ne sont pas intégrés dans cette étude? Pour quelles raisons? Belette, fouine, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, gé des chênes et tourneaux sans sonner sont depuis plusieurs années classées espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Les plaintes de dégradation en milieu rural n'étant pas revues à la baisse depuis la chasse et l'abattage de ces espèces, plusieurs organismes ont donc mené des études sur l'efficacité du dispositif de régulation de ces espèces. Ainsi, diverses études ont vu le jour. Dans une expertise datant de juin 2023, l'Agence de sécurité sanitaire avait estimé que le classement du renard comme nuisible n'était pas justifié par un motif sanitaire lié aux possibles transmissions de zoonoses. En septembre de la même année, une synthèse de la littérature scientifique effectuée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité avait également montré l'inefficacité de la destruction des nuisibles pour réduire les dégâts sur la santé, sur les troupeaux, sur la faune sauvage et le milieu agricole. Mais elle n'avait en revanche pas évalué le bilan économique d'une telle approche. Publiée ce lundi 9 mars dans la revue Biological Conservation, l'étude menée par le Muséum d'Histoire Naturelle a évalué du point de vue écologique et économique l'efficacité de la lutte contre les animaux dits nuisibles en exploitant 7 années de données de 2015 à 2022 portant sur les déclarations de dégâts et sur le nombre de nuisibles tués. Attention, les ongulés, cerfs, chevreuils et les sangliers ne sont pas étudiés dans cette étude. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cet épisode. Pour rappel, en France, chaque département recueille les déclarations officielles de dommages causés à la faune sauvage, aux exploitations agricoles et d'élevage, aux personnes et aux autres biens, au moyen de formulaires type précisant les espèces concernées et une estimation monétaire du préjudice en euros. Les agriculteurs, les producteurs agricoles et les particuliers peuvent déposer une déclaration de dommages, souvent en ligne en indiquant le type de dommage, en proposant une estimation du coût économique et en identifiant l'espèce responsable. Il n'existe ni formulaire standardisé ni contrôle organisé de ces déclarations qui sont conservées et compilées par les administrations départementales puis transmises à l'administration nationale. À partir de ces déclarations, chaque département établit un rapport annuel récapitulant le coût des dommages attribués à chaque espèce nuisible, ainsi que le nombre d'individus abattus par espèce pour une saison de chasse, du 1er septembre de l'année au 31 août de l'année suivante. Les piégeurs, agréés, doivent tenir un registre quotidien de leur prise en précisant par commune l'espèce et le nombre d'animaux de chaque espèce capturée. Il en va de même pour les chasseurs exerçant leur activité hors saison de chasse qui doivent obtenir une autorisation spéciale et déclarer leur prise. La transmission de ces données à l'administration départementale est obligatoire. Toutes ces données sont ensuite centralisées par le ministère de l'Environnement. Ces jeux de données officielles utilisés dans cette étude ne sont pas en libre accès et ont été obtenus auprès du ministère avec des informations au niveau départemental pour 7 saisons de chasse consécutives. Cette étude conclut que la destruction de quelque 1,7 million de renards, fouines, martes, corvidés, donc pies, corbeaux et corneilles, ne présente pas de lien avec l'évolution des coûts des dommages, pertes agricoles, zoonoses, déclarées, de même que l'arrêt de cette destruction n'augmente pas les dommages constatés. En outre, les scientifiques établissent que ce contrôle des espèces n'a pas d'incidence sur la régulation des corvidés, mais surtout qu'il présente un coût entre 103 et 123 millions d'euros, 8 fois supérieur à celui des dommages occasionnés, estimé entre 8 à 23 millions d'euros. Aucun bénéfice de l'effort de contrôle n'a été mis en évidence. Le contrôle létal n'a pas d'incidence sur les effectifs des populations et pourrait même réduire les services écosystémiques associés à ces espèces. On pense notamment à la régulation des populations de rongeurs par les petits carnivores et la dispersion de graines par les corvidés. Ainsi, les chercheurs avancent qu'étant donné que le contrôle létal est inefficace, économiquement injustifiable et éthiquement discutable, il est recommandé que la réduction des coûts économiques des dommages se concentre d'urgence sur la réduction et la prévention de ces dommages, ce qui ne requiert pas de contrôle létal. Reste donc à développer des solutions alternatives efficaces et potentiellement non létales pour réduire les dégâts. Concernant les corvidés, des recherches prometteuses sont en cours sur les répulsifs pour semences et les systèmes de dissuasion, rapporte l'étude. Actuellement, cette politique d'abattage repose sur un arrêté de 3 ans, dont la version en vigueur expire cette année. Cet arrêté est ajusté à l'échelle de chaque département et vise 9 espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les ésodes. Belette, fouine, marthe, renard, corbeau, freux, corneille noire, pie bavarde, jet des chênes et tourneaux sans sonnet. Il permet de détruire ces espèces par tir ou par piégeage, voire par déterrage pour le renard, y compris hors période de chasse. Quelques restrictions existent pour certaines espèces dans des départements déterminés. On parle quand même d'un droit de destruction que les propriétaires, possesseurs et fermiers peuvent exercer ou déléguer par écrit. Le rapport de l'IGEDD avait relevé qu'aucun des autres pays étudiés n'avait mis en place de dispositifs fondés sur la destruction comme l'avait fait la France. Dans ces autres pays, la mise en œuvre opérationnelle s'appuie sur 3 piliers : éviter, limiter ou indemniser les dégâts. Et décliner au plus près du terrain suivant 3 principes : la proportionnalité, la responsabilité et la gestion différenciée, rapporter la mission. Par conséquent, cette dernière préconisait de supprimer le dispositif d'arrêté triennal à son échéance en août 2026 et d'en expérimenter un autre, fondé sur une gestion collégiale sur des espèces cibles dans quelques départements. Revenons désormais à ces sangliers, chevreuils et autres ongulés. Afin de comprendre un peu pourquoi ils ne sont pas étudiés en tant qu'ésodes dans cette étude, il est nécessaire de comprendre comment ils évoluent sur notre territoire. Comme tous les grands herbivores, sans prédateurs, ces espèces ont ce qu'on appelle une forte dynamique de population. En gros, elles se reproduisent à foison, car seule la limite de la ressource limite leur expansion. Vous me direz, oui, mais le loup ! Oui, le loup, pourrait aider à réguler ces espèces si 10 millions de loups peuplaient notre territoire, sans compter le fait que le loup possède une faible dynamique de population. Il lui faut du temps pour augmenter son effectif. Cela rendrait très difficile le pâturage et l'élevage de petits troupeaux en plein air. On pourrait continuer encore longtemps ce type de raisonnement à problème, mais la vérité est que le désordre écologique que nous avons causé il y a des décennies en retirant les prédateurs de l'équation ont des répercussions aujourd'hui auxquelles nous peinons de plus en plus à faire face. Les sangliers ont doublé leur population en 20 ans et occasionnent des dégâts directement observables sur les cultures et les habitations de milieu rural, avec aussi un rôle important dans les collisions routières, la transmission de zoonoses, la destruction de nids d'oiseaux. Les ongulés augmentent également en nombre, impactant la capacité de régénération des boisements et forêts, tandis que celles-ci sont déjà largement fragilisées par la prolifération de maladies, parasites, ainsi que le dérèglement climatique. Face à cela, la chasse est une option qui a du mal à réellement pallier à la dynamique de ces espèces. Si la population de sangliers a doublé en 20 ans, les abattages ont été multipliés par 8 sur la même durée. et dire que nous avons 98% de notre ADN codant en commun avec le cochon. Obélix serait ravi de cette nouvelle.
Bichut ! Répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier.
Tu es un sanglier, tu es un sanglier.
C'est ça ! Je suis un sanglier ! Un sanglier ! Je suis un...
Tout ce vivant qui grouille en ce printemps naissant est une véritable aubaine pour les naturalistes en herbe. Que diriez-vous de tendre la feuille un instant à un récit enchanteur de nos contrées ? Quand il neige.
Toi, que fais-tu ? Où vas-tu quand il neige dehors ? Moi ? Je me faufile à l'intérieur, dit la souris. Le vent souffle. Froid et fort, quand il neige dehors. Moi, je regarde par la fenêtre, dit le chat. Mes yeux brillent comme de l'or quand il neige dehors. Moi, je cherche des graines, dit le moineau. Pique, pique, picore, quand il neige dehors. Et toi, que fais-tu ? Où vas-tu quand il neige dehors ?
Nous, vers les îles, nous nous envolons, disent les oies sauvages. Coin, coin, coin. Quand il neige dehors. Moi, je construis une hutte, dit le castor. Je taille, je ronge et je mords quand il neige dehors.
L'eau est fraîche, dit le poisson. Moi, je suis mis au fond. Frit, 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 quand il neige dehors.
Moi, je rentre dans la grange, dit le cochon. Il fait trop froid dans la fange. Quand il neige dehors.
Moi, j'attends. Le fermier, dit la vache. Il vient tirer mon lait chaud. Meuh, meuh, quand il neige dehors.
Et toi, que fais-tu ? Où vas-tu quand il neige dehors ?
Moi, je cache mes œufs, dit la poule, pour que mes poussins poussent bien.
Cote, cote,
cote, quand il neige dehors.
Moi, je me perche tout en haut, dit le coq. Écoutez mon cocorico. Quand il neige dehors.
Moi, je reste où je suis, dit le ver. Il fait chaud sous la terre.
Je creuse et m'entortille. Quand il neige dehors.
Et toi, que fais-tu ? Où vas-tu quand il neige dehors ?
Moi, je mets mon grand manteau, dit l'hermine. Toute vêtue de fourrure blanche. Je ressemble à une reine quand il neige dehors.
Moi, comme la tortue, je plonge me cacher dans la vase, dit la grenouille.
Blip, blip, blip,
quand il neige dehors.
Moi, je cherche un endroit où la mousse et l'herbe poussent, dit le cerf. Je saute, je bondis, je cours quand il neige dehors.
Moi, je dévale la colline, dit la loutre. Sur le dos, je file, je glisse, je dégringole, quand il neige dehors.
Comme la neige est épaisse, dit l'ours noir. Moi, vite, vite, je vais dormir tout de suite quand il neige dehors.
La chauve-souris gigote dans sa grotte. Le serpent se cache sous son rocher. Le raton laveur s'abrite dans une souche. L'écureuil grimpe à l'arbre. La taupe creuse dans sa galerie. Le lapin saute dans son terrier. Le loup attend dans sa tanière. Le chipmunk se glisse dans son repère. Neige sur le toit, neige sur la terre, neige toute fraîche, qui tombe et vole. Moi ? Bah moi je préfère sortir quand il neige. Je veux jouer dehors.
Gros, petit, velu, poilu, tacheté. Ou immaculé, à pattes ou à ailes, l'œil vif ou le regard curieux, ceux qui grouillent dehors se réveillent, et ce, jusque dans nos cours d'eau. Le printemps des castors est une manifestation européenne de sensibilisation autour du castor d'Europe. Cet événement est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur les zones humides et les espèces de mammifères semi-aquatiques menacées qui y vivent. En 2026, la 16e édition du Printemps des Castors se tiendra du 20 mars au 21 juin, avec un temps fort le week-end du 21 et 22 mars. Beaucoup d'organismes y participent sur les Hauts-de-France. et les informations transitent toutes à un moment donné sur le compte de Eau Vivante Nord de France. D'ailleurs, ce vendredi 3 avril à Hannequin se tiendra une conférence par le Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France sur le castor. Rendez-vous à 20h à la réserve naturelle régionale des marais de Cambrin à Hannequin. Inscription obligatoire avec le lien sur le podcast de cet épisode. À celui qui grignote en crayon les arbres des rivières, à celui qui chante à tue-tête « Je suis beau, ne trouvez-vous pas ?» et à celle qui bourdonne timidement dans les forêts. Merci de nos rêves ayez un peu plus chaque jour. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Sur au cyprès, peint des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.